On passe au vert.
Ah, les petits oiseaux, ça nous calme. Oui, on passe au vert. C'est notre chronique qui est tournée vers l'environnement et qui est là pour qu'on se donne tous des outils, autant que nous sommes, pour essayer d'incorporer un peu plus d'écologie, d'environnement responsable dans nos vies. Vous avez vu, dernièrement, on a beaucoup parlé de pesticides. Pourquoi? Parce que, entre autres, la Fondation David Suzuki aimerait bien que l'usage des pesticides soit banni ou en tout cas certainement restreint au Québec, tant dans les domaines agricoles que chez vous à la maison domestique, parce qu'on sait que il y a des études qui le prouvent de plus en plus. Des produits comme le Roundup qui contiennent du glyphosate sont nocifs pour la santé. Il y a eu des documentaires dont on vous a déjà parlé ici à cette antenne, à cette émission-ci. Moi, c'est quelque chose que je suis beaucoup et qui m'inquiète profondément, comme plein d'écologistes. Louise Hainaut-Étier est chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki, qui a coécrit justement une étude qui fait un lien entre pesticides et autisme. Merci, Louise, d'être là.
Merci.
Il y a eu une autre étude également la même semaine où on disait lien sans doute entre le Parkinson et ce fameux et ces pesticides. Donc là, il y a une véritable envie de contrôler tous ces produits-là. Là.
Oui, ben en fait, il y a quelques années, on se questionnait à savoir est-ce que le Parkinson peut être déclenché par les pesticides. Et on a fait des recherches pendant des décennies pour finalement se rendre compte que l'évidence est hors de tout doute. En fait, en laboratoire, quand les chercheurs veulent étudier des remèdes au Parkinson, ben ils injectent des pesticides aux animaux de laboratoire pour déclencher le Parkinson. Donc le lien de causalité est vraiment là, hors de tout doute dans le cas du Parkinson. Mais ça a quand même pris plusieurs années avant qu'on ait toutes les confirmations nécessaires pour arriver avec une certitude absolue de dire il faut bannir les pesticides qui sont concernés dans le déclenchement de la maladie de Parkinson. C'est urgent, il faut déclarer ça.
Et là, ce que vous dites, Louis, c'est qu'on a une certitude absolue que les pesticides causent le Parkinson?
Oui, oui, dans le cas du Parkinson, ça, c'est hors de tout doute. Là. Et maintenant, ce qu'on voit...
Et l'autisme?
Dans d'autres problèmes de santé neurodéveloppementaux, ouais, comme l'autisme,
ouais,
on voit qu'il y a des corrélations dans les études scientifiques, c'est-à-dire qu'on voit en même temps, là où il y a eu beaucoup d'usage de pesticides ou là où les femmes avaient beaucoup de pesticides dans leur urine, on voit une recrudescence des risques d'autisme. Et les deux événements se présentent en même temps, mais ça, c'est dans plusieurs études. Donc, il y a une corrélation qui est statistiquement significative à laquelle il faut s'intéresser. Et la nouvelle étude qu'on a sortie, en fait, dit justement, mais là, il y a une série de drapeaux rouges qui sont sortis à propos du lien potentiel entre les pesticides et l'autisme. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, approfondir cette question-là pour faire les études sérieuses qui s'imposent pour confirmer si oui ou non, il y a un lien de causalité, comme on l'a découvert après plusieurs années dans le cas du Parkinson?
Parce que dans le cas de l'autisme, on dit aussi qu'il y a une notion de génétique là-dedans. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais pour vous, c'est clair que les pesticides font partie de ces facteurs potentiels.
En fait, dans l'autisme, il y a une vulnérabilité génétique qui est bien connue. Mmh. Et si on est exposé à certains paramètres environnementaux, il y a une chance accrue de déclenchement de l'autisme. Et ce qu'on a vu, nous, dans notre étude, en fait, c'est qu'on ne s'est pas intéressé justement aux composantes génétiques ou à la recrudescence des dépistages. On les cite parce que c'est des pistes que plusieurs ont explorées et ce sont des pistes valides. Mais nous, on s'est vraiment juste intéressé à la littérature qui concernait les pesticides parce que parmi tous les polluants environnementaux ou tous les facteurs environnementaux qui sont impliqués potentiellement dans le déclenchement de l'autisme et qui sont étudiés, les pesticides sont un pour lesquels il y a les plus grandes corrélations. C'est-à-dire que c'est là que les scientifiques portent le plus leur inquiétude à ce moment-ci. Et ce qu'il faut faire à partir de maintenant, c'est réellement faire des études beaucoup plus approfondies, standardisées, pour vérifier si oui ou non les doutes qu'on a en ce moment se confirment.
Il y a quand même beaucoup de... C'est étonnant parce que toutes ces discussions ces jours-ci m'ont beaucoup surprise parce que j'étais convaincue que les insecticides, les pesticides, on avait interdit ça aux domestiques. Par exemple, quelqu'un qui a un gazon à Montréal, puis là, Montréal veut bannir l'herbicide de Roundup d'ici la fin de l'année 2019. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on avait déjà plus le droit de les utiliser. Là, si vous avez un jardinier qui vient tondre votre pelouse, il va vous le dire. Non, non, on n'a plus le droit de faire ça. Donc, comment c'est encadré jusqu'à maintenant? De quoi on avait le droit? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en ce moment? Puis qu'est-ce qu'on aurait peut-être plus le droit de faire tout à l'heure?
En fait, il y avait environ 144 municipalités qui représentent la moitié de la population du Québec, grosso modo, qui s'étaient déjà dotées de règlements pour restreindre l'usage des pesticides cosmétiques. Le glyphosate, le Roundup, n'était pas inclus dans cette liste-là, dans aucune de ces municipalités-là, selon la nouvelle qui est sortie la semaine dernière. Donc, Montréal deviendrait la première à interdire, à ajouter, en fait, le glyphosate, le Roundup, à cette liste-là. Et on sait qu'en contexte urbain, ce n'est pas quelque chose qui est absolument essentiel. Si on a un pavé uni à désherber, on peut se servir de bien des outils mécaniques, arracher les mauvaises herbes, les ébouillanter, ou même les laisser fleurir jusqu'à une certaine limite pour les pollinisateurs, là. Mmh. Donc, en ville, c'est quelque chose dont on peut se passer
très. Mais dans les parcs, par exemple, en ce moment, comment on fait?
Ben, dans les parcs, en ce moment, il n'y en a pas réellement qui est utilisé. Non, c'est ça. Donc,
c'est pas un vrai problème à Montréal, on s'entend?
Non, ce qui est problématique, c'est que ce produit-là va continuer à être vendu dans les quincailleries à Montréal et c'est des ventes libres parce que c'est contrôlé par le gouvernement provincial. Donc, nous, ce qu'on va demander dans le cadre de la commission parlementaire, c'est entre autres d'aider les municipalités qui décident de restreindre l'usage de certains pesticides sur leur territoire en interdisant la vente parce qu'il n'y a pas personne qui va réellement aller vérifier entre la quincaillerie du coin et votre terrain si vous en avez acheté et appliqué chez vous.
Là, vous parliez de la commission parlementaire sur les pesticides. C'est bientôt. Hein? Vous allez y aller. Ce qui est étonnant, c'est que le Canada, vous dites que c'est une réglementation provinciale, mais c'est quand même étonnant que le Canada n'ait pas banni l'utilisation du glyphosate, par exemple, pour parler de ce produit-là qui est connu, même l'OMS a dû se rendre à l'évidence après des années de lutte. Il a fallu quand même qu'ils reconnaissent que c'était cancérigène, probablement.
En fait, c'est extrêmement complexe, la gestion des pesticides. Les municipalités peuvent adopter des règlements, mais ça comprend pas tout sur leur territoire. Les provinces sont en charge de l'utilisation, des permis d'utilisation, de la compilation des données statistiques là-dessus. Et le fédéral est en charge de l'homologation des pesticides, c'est-à-dire d'évaluer si on a le droit ou non d'en vendre au Canada. Ce qui se passe dans le cas du glyphosate, par exemple, c'est que le Canada a renouvelé une homologation pour une durée de 15 ans.
Ça n'a pas de bon sens.
Alors
ça.
Que l'Europe a refusé les 15 années successives. Ils ont dit maximum 5 ans parce qu'il y a trop d'incertitudes, il y a trop de drapeaux rouges dans la littérature scientifique qui nous portent à croire qu'il y aurait peut-être des problèmes. Donc, ils ont demandé des études supplémentaires et l'homologation va être revue dans 5 ans. Au Canada, on a donné un passe-droit pour les 15 prochaines années.
Mais est-ce que le Québec pourrait décider ici qu'on interdit le glyphosate?
Le Québec a les pouvoirs qu'il faut pour restreindre davantage l'utilisation d'un pesticide. Nous, on a demandé à ce que le glyphosate soit inscrit sur la liste des pesticides les plus à risque, pas à cause de sa toxicité unitaire. Tu sais, comme si tu es en contact avec un peu de glyphosate, c'est pas le pesticide qui va être le plus toxique parmi l'ensemble des pesticides. Par contre, c'est le pesticide qu'on utilise le plus au Québec, qu'on utilise le plus ailleurs au monde.
Donc, en termes de concentration, donc, on est plus à risque.
Ouais. Parce qu'on l'utilise tellement, on est plus à risque. Alors, ce qu'on demande beaucoup au provincial, c'est de restreindre les usages qui sont non essentiels.
Les agriculteurs. L'exemple
de la ville de Montréal, c'est le meilleur exemple. Là, en ville, on ne devrait pas avoir à s'en servir. En agriculture, il y a des usages qui sont non essentiels et qui sont particulièrement dangereux. Par exemple, si on en met sur le blé juste avant la récolte pour accélérer le séchage du blé, ça, c'est problématique. Les Italiens ne veulent plus importer notre blé pour faire des pâtes parce qu'il y a trop de glyphosate à l'intérieur à cause de ça. Donc, rapidement, on pourrait interdire des pratiques de ce genre-là. Maintenant, là où ça devient plus complexe, et où il va falloir accompagner les agriculteurs dans une transition, et ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est quand on parle des semences OGM qui sont génétiquement modifiées pour résister au glyphosate. Les agriculteurs, ça fait des décennies qu'ils se basent sur ce système-là parce qu'on leur avait dit au départ que c'était sécuritaire et économique et performant. On se rend compte que c'est peut-être pas si sécuritaire et si performant que ça, mais on ne peut pas faire une transition du jour au lendemain. Donc, nous, on ne milite pas là, pour le bannissement total de cette substance-là dans un avenir proche, mais on demande réellement un changement drastique, interdire tous les usages qui sont non essentiels et accompagner les producteurs pour faire une transition vers d'autres méthodes.
Parce que, et puis d'ailleurs, je fais appel aux agriculteurs, aux producteurs maraîchers, à ceux qui font pousser du blé, du soya au Québec, si vous écoutez entre deux récoltes, si vous écoutez en ce moment, j'aimerais savoir votre avis, parce qu'il y en a quelques-uns qui m'ont écrit qui sont un peu fâchés de tout ce qu'on dit sur les pesticides, qui s'inquiètent de ces interdictions qui leur paraissent sévères, puis qui disent, entre autres, un qui m'a écrit, puis ça m'a vraiment touché, il m'a dit, moi, me faire traiter d'empoisonneur, alors que tout ce que je veux, c'est nourrir le monde, je le prends comme une insulte, puis ça me fait vraiment, ça m'attriste, puis ça m'écœure vraiment. Et je peux comprendre aussi, là. En même temps, Jusqu'à quel point au Québec est-ce qu'on l'utilise vraiment, le Roundup? C'est ça qu'on aimerait. Nous, comme consommateurs, on est inquiets aussi. Mais je me mets à la place d'un agriculteur, puis c'est pas simple.
Exactement. Et c'est pour ça que c'est une bonne chose qu'il y ait une commission parlementaire qui se penche sur cette question-là. Parce que pendant longtemps, on a mis dans la boîte à outils des agriculteurs les produits pesticides en leur disant « ça a été évalué, faites-vous-en pas, c'est sécuritaire ». Et on se rend maintenant compte qu'on aurait peut-être dû mettre un petit peu plus de bémol et qu'on aurait peut-être dû favoriser davantage les méthodes alternatives qui n'impliquaient pas les pesticides à la source. Donc, en ce moment, le gouvernement du Québec doit trouver un moyen de faire une transition qui favorise les produits qui sont à moindre risque et qui favorise les pratiques qui ne nécessitent pas de pesticides, que ce soit la lutte biologique, par exemple, utiliser des prédateurs naturels pour contrer un ravageur au lieu de systématiquement utiliser des pesticides. Et c'est vers là qu'on s'en va. Et cette transition-là, elle est importante parce que l'UPA nous l'a rappelé dans son mémoire à la Caperne et dans ses sorties médiatiques dernièrement. L'UPA est inquiète. Ils veulent qu'il y ait plus d'études qui soient faites sur les liens entre les pesticides et les problématiques de santé humaine parce que les agriculteurs, c'est eux qui sont au front. C'est eux qui sont au première ligne. Donc, ils veulent vraiment savoir est-ce qu'ils ont été bien renseignés par le gouvernement qui a mis ces outils-là à leur disposition, souvent en se basant sur des études financées par l'industrie, ou est-ce qu'il n'y aurait pas moyen pour eux d'apprendre à faire les choses autrement, mais pour ça, ça va demander de l'aide, il va falloir les accompagner.
Et là, vous parlez de petits et moyens producteurs, mais il y a des grandes industries qui produisent aussi, il y a des grandes compagnies, là. C'est l'industrialisation là, des semences, des graines, des récoltes, là. Ils n'ont pas intérêt, ce monde-là, à ce qu'on leur donne, à opter pour des... C'est pas eux qui vont acheter des insectes pour essayer... Les nouvelles méthodes, disons que eux, c'est plutôt de la masse. On produit. Ça prend quelque chose de rapide. C'est pour ça que le Roundup a été utilisé comme ça.
Bien, vous savez que les techniques alternatives sont de plus en plus efficaces. Et si on avait investi autant d'argent en R&D au fil des ans dans les méthodes alternatives qu'on l'a fait dans le cas des pesticides, on serait rendu beaucoup plus loin dans notre développement. La science agronomique existe depuis super longtemps. Puis il y a des principes de base, tu sais, la bonne plante au bon endroit, dans le bon type de sol, le bon cultivar pour qu'il soit moins sensible aux problématiques environnementales. Il y a toute cette science-là aussi qui est derrière. Et donc, ce qu'il faut en ce moment, c'est qu'il y ait des agronomes qui soient bien formés pour accompagner les agriculteurs et les aider à choisir les alternatives qui fonctionnent, qui ont été démontrées et qui sont aussi rentables économiquement.
Comme, par
exemple?
Parce
qu'il y en a. Bien, il y a eu des exemples qui ont été mentionnés dans les médias dernièrement. Par exemple, la mouche rose, dans le cas de... c'est une mouche qui s'attaque à l'oignon. Donc, la larve va se développer à l'intérieur de l'oignon. Ça fera pas des oignons très appétissants, mettons. Donc, ils relâchent des mouches comme ça, stériles, qui vont s'accoupler avec les mouches qui sont dans le champ et donc ils n'auront pas de bébés. Alors, c'est une belle technique alternative à l'usage de pesticides. Il y a plein d'autres techniques qui sont utilisées à grande échelle, que ce soit les coccinelles pour lutter contre les pucerons, que ce soit aussi l'usage de phéromones. Là, dans le cas, par exemple, des pommiers, on peut utiliser des phéromones qui vont confondre les insectes qui voudraient s'accoupler. Donc, c'est des phéromones sexuelles, puis on appelle littéralement cette technique-là la confusion sexuelle. Donc, les insectes ne seront pas capables de trouver leur partenaire pour s'accoupler correctement. Alors, il y a énormément de techniques comme ça qui sont issues de l'agriculture biologique et le gouvernement du Québec, en finançant la recherche pour l'agriculture biologique, finance aussi le développement de solutions qui peuvent s'appliquer sur toutes les autres pratiques conventionnelles. Donc, en favorisant le biologique, on s'assure réellement d'avoir un transfert de connaissances et d'expertise vers les autres secteurs.
Mm-hmm. Fort intéressant tout ça, on apprend plein de trucs. On va s'arrêter ici, très courte pause. S'il y a des agriculteurs, je le rappelle, qui veulent intervenir là-dessus. Si vous-même, comme consommateur, qui mangez des aliments qui auraient pu être traités, en fait, dont certains ingrédients auraient pu être traités au Roundup. Le problème, c'est qu'on ne le sait pas. Hein. C'est pas marqué sur l'emballage. Ça, c'est le genre d'affaire aussi qui est un problème. Dites-moi comment vous comprenez tout ça. C'est la Fondation David Suzuki, entre autres, qui demande à ce que Québec légifère, en tout cas, qui encadre mieux l'utilisation de ces pesticides. 514-790-9850. Et sans frais, vous faites le 1-866-790-9850. À tout de suite, tout le monde. Des pesticides dans nos assiettes, c'est clair qu'on n'en veut pas. Hein? Évidemment, comment s'en assurer? Je vous disais que malheureusement, c'est pas inscrit sur les étiquettes des aliments qu'on achète. C'est même pas marqué OGM au Québec ou au Canada. Ça, Louise et Noéti pourraient s'en insurger également, n'est-ce pas? À la Fondation David Suzuki, je pense que vous militez aussi pour ça, pour qu'on sache ce qu'on
mange. En fait, juste à la limite de savoir. Là,
dis-le-moi, c'était OGM.
Exactement. Ouais. Le débat que l'OGM soit sécuritaire ou pas sécuritaire, ouais, c'est un autre débat, mais le public a le droit de savoir. On n'a pas le droit de cacher ce genre d'informations.
Parce que OGM, puis il y a du saumon maintenant. Puis j'avais fait une entrevue avec un spécialiste en distribution alimentaire, Sylvain Charlebois, qui disait que selon lui, ça semblait assez inoffensif en termes. Mais c'est du OGM. OGM, ça dit organisme génétiquement modifié. Veux-tu manger du génétiquement modifié? C'est au choix. Personnellement, non. Parce que je fais pas confiance. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis née de même. Mais si ça vous gêne pas, tant mieux.
Exactement.
Mais faut
il faut
le savoir. Exactement.
Ça.
On a avec nous des auditeurs qui veulent intervenir. Marco, comment vous voyez ça, vous, les pesticides? Est-ce que c'est quelque chose qui est une inquiétude pour vous?
Ben, c'est sûr que c'est une inquiétude. Regardez, moi, je suis un fidèle auditeur à Isabelle Maréchal et Paul Arquin. Et puis, depuis plusieurs années, on entend parler de ça, les pesticides.
Ouais.
Ça aurait dû être mis en place beaucoup plus avant ça. Moi, je suis producteur biologique avec ma famille depuis 23 ans. Et puis, la base d'utilisation des pesticides, c'est large, hein, parce que quand les agriculteurs utilisent des cultivars, ben les cultivars, ils ont été adaptés à pousser dans des sols qui sont toujours bien propres.
Mm-hmm.
Alors, quand il arrive un envahissement d'une plante, on ne peut pas dire une mauvaise herbe, on va dire que c'est une plante qui n'est pas à la bonne place quand on fait la culture, bon, ben on a une réduction de rendement. Alors, il faut partir avec une base de des semences qui vont avoir... Parce qu'une semence, c'est intelligent, puis ça va s'adapter dans n'importe quel climat. Fait que si la semence de base est adaptée à avoir une compétition un peu avec une plante qui est pas à la bonne place, bien, on va augmenter nos rendements. Et puis, depuis 20 ans, les agriculteurs, ce que je déplore, on a perdu notre instinct d'agriculteur parce qu'on se fait conseiller par plusieurs personnes. Tout le monde cogne à notre porte pour venir nous aider à augmenter nos rendements.
De l'industrie, c'est ça?
De l'industrie.
Avec des produits.
Ben oui.
Oui. Même vous, dans le bio, vous avez de la visite de gens qui vous disent « Ah, tu sais, tu fais du bio, mais tu pourrais peut-être essayer ça pareil. Ça augmenterait ton rendement de produits bio. »
Oui. Oui, mais depuis 7-8 ans, je suis un peu un gaulois parce que j'ai adapté des méthodes culturelles différentes chez moi, puis j'ai des très bons rendements. On refait les semences à la ferme, alors on redonne à la terre, puis on fait une mémorisation de la semence qui a poussé dans nos types de sols pour nous aider à avoir des meilleurs rendements. Mais oui, à cette heure, avec le bio qui est en fort essor, qu'on va dire, beaucoup de grosses multinationales vont venir chercher puis venir essayer de vendre des produits pour nous aider.
Ouais,
mais
c'est
tout ça, c'est pas tout le monde.
Ouais.
Je trouve ça de valeur, mais ça devrait, premièrement, nous, on est en régie biologique, puis il faut laisser 25 pieds de notre voisin qui arrose avec des pesticides, puis il va venir arroser dans le fossé pour mettre un fossé bien propre. Ça, c'est déplorable depuis 23 ans que je déplore.
C'est ridicule, ça.
Très ridicule.
C'est ridicule, comme si l'eau de pluie n'allait pas faire son effet puis amener forcément des pesticides ou autres produits chimiques dans votre cour. Il y a un moment donné, voyons donc.
C'est juste pour dire que nous, on ne pollue pas, mais c'est nous qu'il faut se protéger de
l'autre.
L'autre qui est un pollueur. C'est lui qui devrait faire une bande de 25 mètres ou de 25 pieds d'un producteur biologique qui, lui, produit des cultures saines.
Exact. Mais dites-moi, vos semences à vous, Marco, puis là, on va dans le bio, là, c'est connexe, remarqué, n'est-ce pas, Louise, à notre sujet de pesticides, mais vous, dans le bio, votre semence à la base, là, la première, là, je comprends que vous en faites vous-même des semences, vous prenez ce que vous faites pousser, vous prenez vos semences, vous les replantez, mémorisation de la semence, c'est intéressant. Mais la première semence que vous avez achetée, vous l'avez achetée de qui? De Monsanto ou de... Parce que moi, j'avais déjà lu là, qu'ils ont le monopole des semences sur la planète, Monsanto, qui a été acheté par Bayer il n'y a pas longtemps. Là.
C'est un brevet qu'ils ont sur une semence. Alors, ce brevet-là, c'est comme l'agriculteur qui s'est fait poursuivre en Saskatchewan parce qu'il disait qu'il avait ressemé du canola transgénique, puis ce n'était pas le cas.
Ouais.
Parce que ça avait été une contamination croisée. Mais non, nous, on est parti d'une semence qui était non OGM, qui était faite par un semencier qui a fait de l'hybridation. C'est de même qu'on a commencé à refaire nos propres semences.
OK. Bon. Parce que ça devient compliqué, ça aussi, là, pour s'assurer que le bio soit le bio. Tu sais, ta semence à la base, là, si elle n'est pas bio. Quand même, tu dis, je suis un producteur bio. Ben, ça devient extrêmement délicat. Merci beaucoup, Marco. Vous êtes très intéressant. Est-ce qu'on a vos coordonnées, Marco? Parce que quand on va faire du... J'aimerais ça qu'on s'attarde au bio, éventuellement. Beaucoup de gens sont curieux. Restez sur la ligne, on va prendre vos coordonnées. Merci beaucoup. On a Alexandre avec nous. Bonjour, Alexandre. Votre opinion sur les interdits plus sévères là, qu'on appelle pour les pesticides?
Oui, bonjour, Mme Maréchal. Faire une histoire longue courte... Tout à l'heure, vous parliez de l'utilisation de glyphosate dans le blé pour le faire mûrir pas plus rapidement. C'est vous, votre invité, qui a parlé de ça.
Oui, c'est Louise qui me disait
pas,
ça.
C'est Louise, Mme Louise. C'est pas appliqué at large dans la société. Il faut que vous compreniez que le producteur, quand il décide de faire une application de glyphosate avant la récolte de ses céréales, c'est parce que, en corrigie conventionnelle, c'est parce que les céréales peuvent être excessivement sales de plein d'autres mauvaises herbes. Fait que l'idée de ça, c'est d'avoir un produit qui va être propre.
Ouais.
Et qu'après ça, l'appât, il va être calé dans les animaux ou ben, tu sais, il y a ce côté-là qu'il faut aller voir aussi. À creuser plus loin, les producteurs agricoles du Québec ne mettent pas de glyphosate partout, là.
Ah non, mais ben heureusement.
Le glyphosate est là.
Ouais.
Le glyphosate est là. C'est un outil de travail que les producteurs ont. Certains l'utilisent, d'autres l'utilisent pas, d'autres l'utilisent en accompagnement.
Mm-hmm. Est-ce que vous diriez qu'on est prêt au Québec, chez les producteurs, là, à en utiliser moins puis à passer à d'autres alternatives dont parlait Louise et Noétier tout à l'heure?
Ils s'en utilisent déjà moins qu'ils s'en utilisaient pour différentes raisons. Le soya, soya conventionnel, avec lequel on fait du tofu, puis on fait du lait soya et d'autres produits, il est conventionnel. Il n'y a pas de glyphosate utilisé sur ce soya-là, à moins qu'il y ait un problème XYZ, que finalement, il sera pas commercialisable plus tard.
Ouais,
mais l'idée, c'est que c'est ça. Il faut faire attention aussi comment on va le voir. Puis je vais vous amener sur un autre débat.
Ouais.
Vous parlez des herbes, des pesticides et tout ça, mais... Mm-hmm. On va aller sur le côté animal,
mm-hmm.
dans le sens que les gens ont des chats et des chiens. Ils les font traiter contre les puces, les tiques.
Ouais.
Mais on leur donne des insecticides à ces animaux-là pour qu'il n'y ait pas de puces ou de tiques.
Et
après ça,
vous allez coucher
avec votre animal.
Ben oui, vous allez coucher avec votre
animal. C'est quoi qui est plus pire? Puis après ça, on met le blâme sur les pesticides et tout. Mm-hmm. Oui, les gens commencent à avoir des maladies maintenant. Ben, plus développé, si on veut, le Parkinson a vécu un effort assez fulgurant depuis quelques années. Mais,
et l'autisme,
ce que je vais en arriver aussi, c'est de dire que les gens, il y a, mettons, 50, 60 ans, ils étaient des produits qui étaient disponibles pour les agriculteurs, méconnus, puis les gens, ils mettaient pas tout le temps la protection adéquate pour utiliser ces produits-là aussi, là. Moi, je me rappelle, dans ma famille, mes oncles, tout ça, ils arrosaient pas de masque, rien, puis c'était des produits qui étaient très, très forts, là. Mais tu sais, avec le temps, aujourd'hui, on apprend à travailler avec ces produits-là intelligemment, en mettant de la protection, puis en se couvrant, là.
Mm-hmm. Puis avec les nouvelles méthodes d'agriculture de précision aussi, c'est que les agriculteurs ont plus besoin de traiter systématiquement l'ensemble de leurs champs de façon homogène. Il y en a plusieurs qui vont aller vers des techniques de dépistage en utilisant des drones pour voir c'est où le problème dans mon champ, traiter seulement un petit espace. Donc, il y a tous des efforts de rationalisation de l'usage des pesticides qui sont faits même dans le conventionnel.
Puis probablement, Alexandre, vous êtes toujours là?
Toujours.
Probablement, ça coûte pas 2 piastres, là, ces insecticides, ces pesticides. J'imagine que pour les agriculteurs, ça serait peut-être une économie, ou en tout cas qu'on pourrait peut-être économiser un peu là, transférer donc le savoir-faire dans des alternatives plus écologiques qui peut-être s'avéreraient moins coûteuses à terme. Ça aussi, ça peut être intéressant.
Oh, effectivement. Non, ça, je comprends. Puis l'agriculture de précision amène ça aussi dans un sens. C'est qu'avec l'usage par satellite, et toutes ces choses-là, on est capable de faire des dépistages au champ,
mm-hmm.
puis on est capable d'aller voir nos champs d'avance, que plutôt qu'encore là, on va un côté écologie, mais de dire qu'on fait la tournée de nos champs à pick-up, une journée de temps, ben ça a des essences, puis ça fait d'autres choses.
Ouais.
Fait que il y a ces outils-là. Autre chose aussi qui est important de spécifier, c'est qu'on parle d'agriculture biologique, mais les moyens de lutte en agriculture biologique, le producteur, il va passer comment de fois dans le champ avec son tracteur pour faire du cerclage et tout. Il y a ce côté-là aussi, réchauffement climatique, il faut qu'on associe à ça. Le biologique peut avoir bien intéressant d'un côté en disant qu'on n'utilise pas de pesticides, mais on utilise de la machinerie agricole. On passe plusieurs passages au sang, puis en conventionnel, on va peut-être faire 2 à 3 fois, puis l'autre va le faire 10 fois. Là, j'extrapole, je donne une exagération.
Puis le biologique. Puis on y reviendra sur le bio parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais il y a des agriculteurs qui m'ont envoyé des photos qui ont sans doute fait déjà le tour du monde. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces grandes photos où on voit des grandes. C'est des constructions de serres, mais c'est une industrie du bio avec de la culture hydroponique qui ça prend beaucoup de chaleur, ça prend beaucoup d'eau, il y a beaucoup de métal. Et il me dit, c'est ça que vous voulez? C'est l'industrie du bio? Fait que, industrie pour industrie, pas sûr. Ce qu'on veut, c'est de plus de petits producteurs bio chez qui on peut aller choisir notre tomate. C'est dans un monde idéal, c'est ça qu'on veut.
Qui vivent dignement, sans pesticides, puis qui sont capables d'adopter des pratiques culturelles de conservation des sols, effectivement, parce que c'est pas une bonne idée de les compacter ou de passer trop souvent dedans.
Merci de sonner l'alarme là-dessus, puis nous permettre d'en discuter. On va suivre, bien sûr, dans quelques jours, le début des audiences à la Commission parlementaire sur les pesticides. Louise Hinault-Étier est chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Merci, Louise. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Entrevue sans filtre avec une femme qui est fabuleuse, fabuleuse, et qui, il y a 50 ans, a brassé le Québec avec un film qui s'appelle Valérie, donc qu'on célèbre aujourd'hui. Tout de suite après la pause, je reçois Danielle Ouimet.